chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Nous retrouvons aujourd'hui Georges Friedrich Händel à Versailles, où le maître de la musique baroque serait-il à une meilleure place? Durant l'été 2014, le domaine de Versailles ouvrait grandes ses grilles dorées, le temps d'un festival qui lui était consacré. Et puis oui, cet air joyeux était tiré d'Assis et Galatée. Pauline Sommelet, dans Point de vue, se faisait l'écho du point d'orgue de ce festival consacré à ce grand musicien. Le château de Versailles ouvrait pour l'occasion le précieux pavillon français du Petit Trianon et le Petit Théâtre de la Reine, où Marie-Antoinette aimait à jouer la comédie. Cette soirée de gala rendait hommage au prince Ruspoli. Les descendants de cette famille romaine, dont le prince Francesco Maria fut un mécène prodigue pour Händel lors de ses années italiennes, étaient les invités d'honneur de ce concert privé, où quelques privilégiés ont pu écouter un florilège des cantates romaines. Après les virtuosités du claveciniste Fabio Bonizzoni et des 8 interprètes, une collation royale et du champagne bien français sous les étoiles ont achevé de conquérir cet auditoire choisi. David Atlan photographiait ce soir-là pour le magazine les invités prestigieux, la famille des princes Ruspoli, en particulier l'élégante Patricia Ruspoli, Angelica Visconti et le prince Francesco Ruspoli, la soprane Dame Felicity Lott, Pamela Huntington Darling, Catherine Pégard, directrice du château, et le ténor Christian Adam, qui en costume d'époque et perruqué, chantait Händel sur la scène merveilleuse du Petit Théâtre mythique, accompagné par l'orchestre installé dans la fosse, comme au XVIIIe siècle. Voici l'aria de Polyphème, d'Assis et Galatée.
Than moonshine nights, than shrillings blind and dead. For if the bright than moonshine nights, like shrillings blind and merry, like shrillings blind and merry, like shrillings blind and merry, oh, run the land that's merry, Oh, sweeter than the berry, oh, ruddier than the cherry. Oh, sweeter than the berry, oh, ruddier than the cherry. Oh, sweeter than the berry, oh, nymph more bright than moonshine, night like children's blithe. Lights than moonshine, nights like children's blithe and merry. Bright as the melting cluster, no lily has such luster, yet far too tame as raging flame and fierce as storms and luster. Yet far too tame as raging flame and fierce as storm and luster. Yet far too tame as raging flame and fierce as storm and luster. Oh, ruddier than the cherry, oh, sweeter than the berry. Oh, ruddier than the cherry, oh, sweeter than the berry. Oh, gift of light and moonshine, night like children's blithe and merry. Oh, gift of light and moonshine, night like children's blithe and merry. Like children's blithe and merry, like children's blithe and merry. Oh, ruddier than the cherry, oh, sweeter than the berry. Oh, ruddier than the cherry, oh, sweeter than the berry. Oh, ruddier than the cherry, oh, sweeter than the berry. Oh, lift more bright than moonshine, night like children's blithe. Oh, more bright than moonshine, night like children's blithe and merry.
Mais revenons un peu sur les œuvres de Handel qui ont séduit les metteurs en scène du XXe siècle. Hayao Miyazaki et Joe Hisaishi utilisèrent la sarabande lors d'un moment crucial du film Nausicaa de la Vallée du Vent en 1964 lorsque l'héroïne Nausicaa accède à un statut quasi messianique. Cette célèbre sarabande est très connue aussi grâce au chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, Barry Lyndon, en 1975, avec dans le rôle-titre Ryan O'Neill et la merveilleuse Marisa Berenson, qui joue son épouse, comtesse de Lyndon. Cette musique rythme tout le film, comme annonciatrice des malheurs qui fondent sur le héros, jeune intrigant irlandais sans le sou, évoluant dans la fastueuse société anglaise du XVIIIe siècle. Malgré son ascension sociale fulgurante grâce à son épouse, une très distinguée lady, très fortunée, sa vie se terminera en tragédie, avec cet épilogue. Ce fut sous le règne du roi George III que ces personnages vécurent et se querellèrent. Bons ou mauvais, beaux ou laids, riches ou pauvres, ils sont tous égaux maintenant. XIXe siècle, il fut surtout apprécié pour son œuvre religieuse, aussi bien en France qu'en Angleterre. Il met en valeur les chœurs professionnels ou amateurs. Ses compositions telles les concertos pour orgue Music for the Royal Fireworks et Water Music sont souvent jouées lors des concerts donnés à Versailles dans la chapelle. Son Messie, un oratorio composé en 24 jours seulement en 1741, Handel travaillait vite, est joué pour la première fois à Pâques. Il est considéré comme un chef-d'œuvre. Ce texte se réfère à la fois à la résurrection du Messie et à la rédemption qu'elle opère. L'Alléluia, connu universellement, a même été utilisé dans une version jazz par Quincy Jones comme ouverture du film Bob, Carol, Ted et Alice du réalisateur Paul Mazursky en 1969. Cet Alléluia flamboyant est interprété ici par le London Festival Chorus un orchestra dirigé par Francesco Macchi.
Oh,
L'opéra, grande affaire. Sous la plume de François Billaud, de Louis XIV à maintenant, 3 siècles d'opéra comique ont passé. À la fin du XVIIe siècle, les foudres du roi Soleil frappent les comédiens italiens qui sont chassés de Paris. Des troupes de forains s'emparent du répertoire des artistes de la Commedia dell'arte. Accommodé à la française, ce type de spectacle va donner naissance à un nouveau genre lyrique, l'opéra comique. Le 26 décembre 1714, deux directeurs de troupes de comédiens itinérants de la foire Saint-Germain, Catherine Baron et Gauthier de Saint-Edme, obtiennent de Louis XIV la permission de se réunir sous le nom d'opéra comique. Un genre nouveau de spectacle est officialisé, ni totalement déclamé pour ne pas contrevenir aux privilèges de la Comédie française, ni entièrement chanté et dansé pour ne pas faire d'ombre à ceux de l'Académie royale de musique. En ces prémices du siècle des Lumières, les deux institutions ne se privent pas de multiplier les procès pour tenter d'étouffer dans l'œuf ce rival. De restrictions, en interdiction de jouer, les artistes du comique vont toutefois s'obstiner, jusqu'à obtenir à leur tour le statut de théâtre royal. Tout a commencé le 14 mai 1697 par une colère du roi Soleil. Les comédiens italiens arrivés en France près de 100 ans plus tôt dans les bagages de Marie de Médicis ont osé jouer la fausse Prude, une pièce tournant en ridicule Madame de Maintenon. La colère du monarque vieillissant, autrefois protecteur des arts, s'abat sur eux. Les scellés sont posés aux portes de l'hôtel de Bourgogne où se produit la Commedia dell'arte. Et Arlequin, Colombine, Pierrot et autres polichinelles sont bannis à 30 lieues de Paris. Une disgrâce que regrette Boileau. « Depuis Molière, dit-il, il n'y a point de bonnes pièces sur le théâtre français. Ce sont des pauvretés qui font pitié. Je plains ces pauvres Italiens. Il valait mieux chasser les Français. » Sur les tréteaux de la foire Saint-Germain de février à mars, des troupes de forains profitent de la disgrâce des transalpins pour reprendre leur répertoire. La Comédie française et l'Académie royale de musique, arc-boutés sur leurs privilèges, multiplient les plaintes auprès de l'Araignée, le lieutenant de police de Paris. Mais quand on leur défend les dialogues, les forains enchaînent des monologues. Les monologues supprimés, ils jouent à la muette des pièces aux répliques portées par des écriteaux. Et pour contourner l'interdiction de la danse et du chant, ils s'essaient au ballet pantomime et font chanter les spectateurs, une promptitude à innover qui séduit le public parisien. Bientôt, auteur et musicien, compose pour ses spectacles d'avant-garde. La mort de Louis XIV en septembre 1715 brise le joug de pruderie entretenu depuis 20 ans par son épouse secrète, la marquise de Maintenon. Et avec la régence de Philippe, duc d'Orléans, neveu du roi défunt, souffle enfin un vent de liberté, comme une soif de plaisir dont la cour et Paris ont été trop longtemps privés. La truculente et très sympathique princesse palatine, mère du régent, s'empresse d'inviter les artistes du comique à se produire au palais royal, tant par goût du spectacle que pour la joie d'enrager la veuve du roi, sa vieille ennemie. Le Télémaque de Le Sage, joué cette même année sur une musique de Gillier, parodie la tragédie lyrique Télémaque et Calypso de Destouches, rivalise de succès avec l'original. Les spectateurs apprécient ces intrigues, plus proches de leurs préoccupations que les tribulations des dieux et héros de l'Antiquité. Si les grandes institutions bataillent pour faire interdire les spectacles, et elles y parviennent encore après la disparition du régent en 1723, la troupe compte bientôt une vingtaine de musiciens, autant de chanteurs et de danseurs. Charles-Simon Favard, son principal compositeur et directeur, à partir de 1757, va lui donner des lettres de noblesse. Aux parodies et vaudevilles comiques succèdent des intrigues originales et touchantes, mises en musique par Philidor, Monsigny, Grétry, Dalayrac et même par le maître viennois Gluck. L'opéra comique, fort de l'appui d'une autre marquise, amie des arts, celle-là, Madame de Pompadour, reçoit enfin en 1762 le statut de théâtre royal. Désormais, ses premières se déroulent à la cour, devant Louis XV, et ses ouvrages sont traduits et exportés sur toutes les scènes d'Europe. Cette même année, les héritiers des Italiens retrouvent la scène de l'hôtel de Bourgogne. Pour 20 ans seulement, la troupe va bientôt occuper son propre théâtre, la Salle Favart, œuvre de l'architecte Jean-François Heurtier. Elle est inaugurée le 28 avril 1783, en présence de Marie-Antoinette et de sa belle-sœur, la comtesse de Provence, par la création de Tally au Nouveau Théâtre de Sedaine et Grétry. Avec l'extrait de l'opéra Orphée et Eurydice, La danse des ombres heureuses de Gluck, Marie-France Guimard-Roche vous retrouvera à Versailles pour une nouvelle émission de Bienvenue chez le Roi, enregistrée et réalisée par Roland Richard, dans les studios du Rocast de Radio Grand Ciel.